Bonjour et bienvenue sur Fréquence Protestante pour un nouveau numéro de l'Enfance de l'Art. Comme chaque mois, je vous propose de découvrir un invité qui revient pour vous sur les œuvres et les rencontres qui ont décidé de sa vocation et qui l'ont nourri. L'occasion de faire plus ample connaissance avec un parcours, des œuvres fondatrices et une sensibilité. Quel bonheur aujourd'hui de pouvoir vous faire partager la rencontre forte et singulière que j'ai eue avec la sculpture d'Edmé Guyon, voici quelques mois. Une œuvre dont les pièces rivalisent de densité, de poésie et d'épure. Des sculptures au titre évocateur, Antigone, l'ange, la paix, la femme étrave, face à face, la lumière, la rencontre, les amis, qui témoigne d'un engagement fort, d'une volonté sans faille et d'une force de vie rare. La sculpture et la vie semblent ici cheminer d'un même pas en quête de lumière. Et si l'œuvre est remarquable, le parcours ne l'est pas moins. Née au début des années 30, Edmé Guyon a une vie tout entière vouée à la sculpture et ne s'est jamais détournée de son chemin. Ses joies, comme ses peines, elle les a transcendées dans la matière. Pour évoquer avec nous son enfance de l'art, je suis ravi d'accueillir Edmé Guyon. Bonjour Edmé Guyon, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je suis très heureuse d'être ici, un peu émue.
Vous allez voir, dans 30 minutes, il n'y paraîtra rien. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas votre œuvre, j'en ai un peu parlé en vous présentant rapidement. Comment vous la définiriez ?
Mon œuvre, je crois que je parlerai surtout de joie d'être en vie, dynamisme, mouvement, partage. J'ai envie de sculpter ce que je sens très fort dans ma vie. Que ce soit la rencontre, que ce soit une situation ou un silence ou une beauté inattendue. Enfin, tout ça, j'ai une sorte de pulsion qui me projette dans mon plâtre et j'essaye par petits paliers successifs de simplifier. Je ne veux surtout pas d'anecdotes. Je veux essayer de parler vrai et simple en me débarrassant de tout ce qui peut m'alourdir. C'est pour ça que j'ai choisi par paliers successifs de faire des sculptures qui partent de la vie, d'une réalité et qui vont vers l'abstraction. Et cette abstraction est assez lisible, je crois, pour beaucoup, parce que j'ai observé une fois que des enfants, je faisais une démonstration de plâtre dans un lycée, enfin dans un petit musée, hein, et ceux qui rentraient les premiers dans cette abstraction, c'était les enfants.
Alors vous nous avez dit que vous travaillez le plâtre principalement ?
Oui,
uniquement ?
Non, j'ai travaillé le bois, j'ai travaillé la terre, comme toujours quand on commence la sculpture. Le bois, j'ai dû m'arrêter pour des raisons physiques, c'était très dur. Et donc je travaille uniquement depuis une trentaine d'années le plâtre. Et c'est la joie parce que le plâtre donne des possibilités de construction rigoureuse et puis aussi de taille directe. Je monte mes sculptures autour d'une armature métallique et après j'invente, je transforme. Si ça ne me plaît pas, je lime, je casse. Je suis complètement libre avec le plâtre. Et une fois que j'ai fini ma sculpture, alors je cherche des courbes, des arêtes. Enfin, ma sculpture est plutôt tendue, avec des lignes de partage entre le convexe et le concave. Et ça parle d'avancée, de mouvement. Et ce plâtre, une fois qu'il est élaboré, bien avancé, terminé à mes yeux, mais c'est jamais vraiment terminé, je le penche chez un fondeur et je fais des bronzes. Voilà.
Des bronzes uniquement ou vous faites d'autres matières?
Oui, j'ai demandé une fois ou deux à un praticien, parce que ça, je n'ai pas la dimension de tailler le marbre, de réaliser des sculptures en partant de mes plâtres, des marbres. Mais c'est très rare, je ne le fais plus. J'ai fait quelques résines aussi. Voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est la palpitation du bronze. C'est une matière... Quand on a le bonheur d'avoir un bon fondeur, d'une part, et ensuite la possibilité de faire les patines soi-même, c'est ce que je fais, on peut faire chanter la sculpture à sa guise. Quoi.
Vous dites chanter, qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, chanter... elle a une chose à vivre, la sculpture. La sculpture, elle est pour moi, elle est surtout mouvement, dynamisme. Donc, il faut que je trouve une patine qui corresponde à sa forme. Il faut que ça soit cohérent. Si c'est quelque chose de très vivant, je ne vais pas faire une patine noire, par exemple. Je ne fais jamais, d'ailleurs, de patine noire. Par contre, quand j'ai fait une sculpture un peu pathétique comme j'ai fait pour Antigone, c'est un sujet quand même assez fervent et passionnel. Enfin, il fallait que je fasse une patine qui avait une certaine gravité, une certaine pesanteur, voilà.
Et c'est toujours la vie qui est au départ d'une sculpture? Un mouvement de vie, oui, c'est quelque chose de ressenti, c'est un état, c'est une humeur, c'est...
Oui, j'ai fait une grande sculpture sur le silence. Alors, c'est un état méditatif qui est très important pour moi. Et ça encore, c'est venu par petits paliers successifs. J'étais dans des conditions... exceptionnel de solitude face à la mer. J'ai eu la chance d'avoir un atelier petit, mais qui donne sur la mer quand je suis l'été là-bas, à Granville. Et là, j'étais nourrie dans mon silence par le bruit de la mer, cette vision fabuleuse de démarrer. Et j'ai commencé par faire une sorte de profil qui écoutait, et puis le profil a presque disparu et s'est transformé en vague, en immense oreille. Donc mes sculptures se métamorphosent beaucoup dans leurs élaborations.
Elles vivent elles aussi, en fait. Pardon, je vous interromps. Elles vivent elles aussi.
Oui, ça. Et... Bon, j'ai parlé du sari, le vêtement que portent les femmes indiennes. Le sari, c'est un symbole d'extraordinaire dynamisme de ce pays. Les femmes sont comme des reines avec leur sari, tout en faisant des travaux extrêmement durs. Elles cassent les cailloux sur les routes, enfin, elles sont les premières levées, les dernières couchées, enfin. Portent l'eau sur leur tête. Et ce sari dans le vent était pour moi une sorte de fascination, en même temps de beauté et de force. De force de la femme et de la femme éternelle. Quoi. Je crois beaucoup dans le pouvoir de courage de la femme.
Il y a beaucoup d'hommages aux femmes, oui. Et à la femme, oui. Dans votre œuvre.
Oui, Antigone, dont je parlais tout à l'heure, et puis aussi, voyons.
La femme étrave.
Ah, la femme étrave, oui. Ah oui, oui.
Entre autres, et puis toutes les sculptures qui lient à la maternité aussi, qui est autre chose.
La mère et l'enfant.
C'est pas forcément la femme combattante, mais c'est la femme mère.
Oui, oui, la femme mère. Ça, j'ai trois enfants, donc j'ai vécu pendant 20 ans, pratiquement en sculptant très peu, en élevant mes trois enfants. Donc j'ai beaucoup parlé de la maternité. Et j'ai parlé aussi de la femme étrave, en effet, parce que l'étrave est une forme que je trouve magnifique sur un bateau. C'est l'avant du bateau qui fend la houle des tempêtes, en fait de la mer, sous déchaînée ou calme. Elle avance. Et quoi qu'il arrive, elle avance. Et je pense que la femme, dans la vie, elle est souvent dans cette situation de fendre la houle des difficultés. Et je voulais parler de ça, voilà. C'était très important pour moi de parler de ce que c'est qu'une vie de femme, poursuivre son chemin dans la houle des difficultés. Parce que les femmes, je crois, et moi j'en ai eu beaucoup, beaucoup, ont souvent de grandes difficultés pour arriver à vivre et poursuivre leur chemin personnel.
Voilà. Edmé Guyon, est-ce que vous vous souvenez de votre premier choc artistique ?
Ah oui, 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 très précisément. D'abord, j'ai vécu mon enfance dans une grande ombre, dans une absence de père. Mon père est mort quand j'avais 2 ans. Ma mère a dû travailler énormément dès la mort de mon père pour élever mes 3 frères et moi, toute seule, courageusement. Donc j'étais très seule. Et j'ai eu une série de petites lumières comme ça. Et mon premier choc, c'est une reproduction qu'on m'a donnée pour ma première communion de la merveilleuse Sainte Anne de Léonard de Vinci, qui est au Louvre en ce moment.
Sainte Anne trinitaire.
Oui. Et c'était surtout le visage de Sainte Anne qui me fascinait. Parce que c'était la tendresse, c'était tout ce que je n'avais pas, en fait. Je vivais dans une grande ombre, solitude. C'était la guerre aussi. J'avais 9 ans en 1940. Donc, ça, c'était mon premier choc. Et puis, après, un deuxième très grand choc, c'est à l'école, au miracle, un prof en classe de 5e, donc je devais avoir 13 ans, a emmené toute la classe au Louvre pour voir l'art égyptien, parce que on travaillait l'histoire ancienne à cette époque-là. Et moi qui vivais dans un désert culturel absolu, sans musique, sans film, sans grand-chose en fait, le choc a été absolument carabiné de voir la sculpture égyptienne. Je suis retournée au Louvre très régulièrement avec des petites copines. Les mois suivants. Et voilà.
Est-ce qu'on peut revenir sur ce choc ? Est-ce que vous vous souvenez, à quelques décennies de distance, parce que c'est ça en fait, est-ce que vous vous souvenez du choc que l'enfant a ressenti ?
Ah oui, oui. Oui, oui, c'était. C'était une sorte de simplicité, d'apaisement. Et de profondeur, et tout ça a été totalement inattendu, nouveau, et la rigueur de... Moi, j'étais une gamine plutôt malheureuse, finalement assez gaie de nature, mais avec un fond de tristesse. Et là, tout d'un coup, ma tristesse n'existait plus. J'étais dans la contemplation tout à fait totale, quoi, la contemplation. Ça me comblait au niveau de la forme, au niveau de ce que ça voulait dire, de ces grands pharaons, de ces maîtres, de leur pouvoir spirituel, de ce que ça voulait dire, tous ces sculpteurs qui travaillaient pendant des jours et des jours pour atteindre cette perfection. Je ne pensais pas que c'était possible.
Au-delà de l'œuvre, est-ce que l'enfant que vous étiez a eu la conscience du travail qu'il fallait faire pour aboutir à ses œuvres, ou c'est le sculpteur aujourd'hui qui parle, qui dit,
non,
qui prend conscience, qui a pris conscience de ça?
Je crois que l'enfant que j'étais n'a pas pris conscience d'autre chose que la beauté, plus que la beauté, la profondeur. C'était une totalité d'émotions. Il y avait la forme, il y avait l'écoute spirituelle. Tout d'un coup, j'écoutais, j'avais l'impression d'être devant des personnages qui me parlaient. Et puis c'est pour ça que j'ai eu envie de voir encore et encore et encore, et je suis retournée très souvent. C'était une nourriture, quoi. Une nourriture qui me paraissait très, très étrange et par moments très difficile. Je ne comprenais pas tout. Hein. Je n'avais que 13 ans. Mais c'était... Je me suis dit, je vais devenir sculpteur, voilà, à ce moment-là. J'avais envie de parler, moi aussi, avec... je croyais la pierre, j'ai pas pu le faire, mais je ne savais pas comment du tout j'allais m'y prendre. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être que sculpter.
Je vous propose qu'on reprenne ce parcours, qu'on continue ce parcours après une première pause musicale, un morceau de votre choix. On en parle après, à vos pertes. On se retrouve avec Edmé Guyon, sculpteur pour son enfance de l'art, après un morceau composé par Arvo Pärt, Spiegel um Spiegel. Pourquoi ce choix, Edmé Guyon?
Je trouve que c'est immense comme musique. C'est grand comme la mer, grand comme les vagues de la mer. Ça m'émeut profondément, ça m'entraîne à voir plus loin. Enfin, ça m'apaise et en même temps, ça me donne des forces. J'aime énormément J'aime énormément cette musique, comme j'aime la sculpture.
Edmé Guyon, on a parlé avant la pause musicale de votre premier choc pour la sculpture égyptienne et avant ça pour le Sainte-Anne Trinitaire de Léonard de Vinci. Vous avez laissé esquisser un peu une enfance dans l'ombre, entourée de trois frères, d'une mère qui vous élève seule, qui travaille beaucoup. Avant la sculpture, vous dites qu'il y a quand même de la gaieté sous un fond de tristesse. Oui. Qu'est-ce qui vous occupe avant la découverte de l'art ?
En fait, j'ai eu dans cette ombre, j'ai eu plusieurs tracés, enfin, petits jalons lumineux. Donc, c'est ce que je viens de raconter, là, la découverte grâce à un professeur.
Est-ce que vous vous souvenez de son nom, de ce professeur ?
Non, justement pas, c'est dommage. Oh.
Mais n'empêche qu'il a ouvert une porte.
Ah oui, et après, j'ai été bénie par les professeurs, moi. J'ai eu un deuxième événement très important, un prof de latin, ça je me souviens son nom, Suzanne Bessière, elle est morte malheureusement, et qui m'aimait beaucoup parce que j'étais très bonne en latin. Et elle a vu que j'étais malheureuse dans ma famille, enfin j'étais pas bien. Et elle est venue voir ma mère et lui a parlé d'une pension, le Paraclet. Et ce Paraclet, elle est arrivée à convaincre ma mère de m'envoyer dans cette pension où je serais sûrement mieux que Faubourg Saint-Antoine dans le 11e, partagé entre mes frères, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, ma mère que je voyais à peine, etc. Bon. Voilà, alors je suis allée au Paraclet, c'était une pension tout à fait magnifique, qui était dans un grand parc, et avec des cours très... des cours le matin, et l'après-midi, il y avait des ateliers. Et c'était des cours avec très peu d'élèves. Donc, il se passait des choses relationnelles magnifiques. Et l'atelier, l'après-midi, il y avait la danse, la musique, etc. Il y avait le modelage. Et j'ai modelé pour la première fois de ma vie dans cette pension. Et le prof, au bout d'un an, m'a dit, Edmé, si vous voulez, après votre bac, venez dans mon atelier à Paris. Puisque je trouve que vous avez quelque chose dans les mains qui serait intéressant de cultiver. Alors, je réponds. Ma maman ne voudra sûrement pas, car elle veut que je fasse l'école Pigier. Alors, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, Edmé, je vais aller la voir. Et cette femme a eu l'immense générosité, c'est un événement très important dans ma vie, d'aller voir ma mère, passage de la main d'or dans la boutique où elle travaillait courageusement du matin au soir. Et elle est arrivée à convaincre ma mère. J'ai donc pu, après mon bac, première partie de bac, je suis revenue à Paris pour la deuxième partie, j'ai pu travailler dans ce premier atelier de sculpture.
Pour la chronologie Edmé Guyon, j'aimerais qu'on précise les choses. Vous découvrez la sculpture égyptienne au Louvre, vous avez 13 ans. La pension, le Paraclès,
15 ans.
Deux ans plus tard.
Oui.
Entre-temps, vous retournez beaucoup au Louvre, d'après ce que vous nous avez laissé entendre. Est-ce que c'est un échappatoire pour la jeune fille que vous êtes ?
Bien sûr.
À quoi ça correspond ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de proximité avec vos frères, par exemple.
Mais non, parce qu'ils étaient plus âgés que moi et j'étais très seule. C'était la guerre, il n'y avait pas grand-chose à vivre de très joyeux. Hein. Ma mère était d'une anxiété épouvantable, à juste titre d'ailleurs. Donc tout ça faisait que je travaillais à l'école, bien sûr, mais il ne se passait rien. Rien. Rien que les rencontres. je dessinais pour... Bien sûr, je dessinais, mais je...
C'est du dessin sans cours, sans apprentissage, c'est pour vous.
Non, c'est... Le grand début, ça a été le paraclet.
D'accord, le paraclet, et donc pendant un an...
Non, je suis passée 2 ans.
Deux ans au paraclet. Donc de 15 à 17
oui.
ans.
Oui.
Et après, la première année du bac, et oui. après, des cours de sculpture. Voilà. Est-ce que toujours, pour vous, la chose
c'était
a été claire ?
C'était même pas des cours. C'était, j'étais dans un atelier, et je faisais les bases besognes qu'on doit faire dans un atelier, réintégrer la terre, quand elle a durci, la remouiller, etc., monter des armatures, etc. Parce que... Mais j'apprenais énormément en voyant cette femme sculptée. Et elle était très généreuse avec moi. Alors, on peut appeler ça des cours, si on veut, mais...
C'est plus une découverte de l'atelier et du travail de sculpteur.
Ça. Voilà, c'est ça. Parce que je ne me représentais pas très bien ce que c'était. J'avais... Mais là, j'ai été très passionnée, tellement passionnée que c'était l'année devant mon bac de philo. Je séchais tous les cours de sciences nat.
Pour on aller... peut le dire, maintenant, il y a prescription.
Voilà. Et par contre, j'ai été reçue quand même parce que j'ai eu un 16 en philo. Youpi.
Et donc, l'apprentissage de... Enfin, la découverte du métier de sculpteur, mais toujours, pour vous, le rapport à la sculpture a été clair. Oui. Depuis la découverte, à 13 ans,
oui.
de la sculpture égyptienne au Louvre, est-ce que vous vous souvenez de ce choc, et pour vous, c'était clair dès la première vision au Louvre, ou c'est une lente maturation?
Non, c'est une lente maturation, bien sûr. J'ai eu envie de devenir sculpteur, mais il y avait tous les obstacles que je vous expliquais, l'ambiance familiale, ma mère qui voulait que je gagne ma vie. C'était tellement dur pour elle qu'elle voulait absolument que je devienne secrétaire. Faire l'école pigiée, c'était une obsession.
Ça la rassurait.
Ça la rassurait, et ça se comprend. Bon, après, je me suis mariée très jeune, hein, pour échapper à ma mère, d'une certaine manière. Et là, j'ai épousé un marin, donc j'avais beaucoup de temps pour moi, puisqu'il était loin, mais j'ai découvert la mer.
Avant cette étape, Edmé Guillon, j'aimerais qu'on revienne sur les... Après votre bac, il y a la Grande Chaumière...
Ah oui, oui.
Est-ce qu'il faut que vous nous en parliez un peu de l'atelier de la Grande Chaumière et après de l'Académie Julian et de l'atelier de Rivière.
Oui,
est-ce qu'on peut parler déjà de la Grande Chaumière? Comment vous rencontrez, comment vous avez connaissance de cet endroit?
Toujours par ce même prof de sculpture, parce qu'elle a dit à ma mère, vous savez, elle est revenue la voir une autre fois, elle était très emballée, très contente, ça se passait bien avec moi. Et elle m'a dit, mais elle a dit à ma mère, il faut absolument la laisser, puis si vous voulez pas qu'elle fasse les beaux-arts, mais laissez-la aller dans des ateliers de dessin, de peinture, la Grande Chaumière, l'Académie Julian, etc. Et c'est là que pendant 2 ans, j'ai eu le bonheur de dessiner, évidemment, à la Grande Chaumière, il y avait le modèle vivant, c'était capital, de dessiner...
Des écoles extrêmement réputées.
Très,
il y avait des célébrités qui sont passées par la Grande Chaumière, et puis après, comme vous, par l'Académie Julian.
Oui, oui, oui. Il y avait... à l'Académie Julian, il y avait un très bon sculpteur qui s'appelait Rivière, et qui préparait aux Beaux-Arts, justement.
Et qu'est-ce que vous ont appris ces années d'apprentissage? Qu'est-ce que vous ont apporté, pardon, ces années d'apprentissage?
Ah ben là, l'exigence, la rigueur, la construction, parce que quand on fait du modèle vivant, quand on fait des reproductions d'antiques, oui, les plâtres antiques, c'est très très exigeant. Et puis, j'ai pas fait de peinture, j'ai choisi le dessin et la sculpture. Donc, le modelage, uniquement le modelage là-bas, ça m'a appris à la rigueur, voilà. La rigueur.
Est-ce qu'il y a eu des professeurs marquants à la Grande Chaumière et à l'Académie Julian?
Non, j'ai connu que Rivière. Alors, à l'Académie Julian, j'allais... À la Grande Chaumière, pardon, j'allais dans... dès que j'avais un peu de temps, en atelier libre. C'était corrigé ou pas corrigé, on pouvait se déplacer comme on voulait, suivant. Je voulais faire du modèle vivant, donc des séances de pause d'une heure, de trois quarts d'heure, d'une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes, c'est très, très, très passionnant. Mais j'ai pas eu connaissance, j'ai pas connu de prof là-bas.
Est-ce que il y a des gens qui vous guident? Alors, il y a la réalisation de la sculpture, mais il y a aussi tout l'aspect histoire de l'art. Aller voir ce que les grands anciens ont fait. Comment vous vous nourrissez à cette époque-là?
Oui, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Ce n'est que après, quand j'ai été un peu plus libre, quand je me suis mariée, que j'ai pu explorer un peu plus à fond les expositions, les grands maîtres, comme vous dites. Mais ce n'est que quand mes enfants ont été un peu plus grands que j'ai pu vraiment me nourrir. Mais je me nourrissais de ce que je voyais. Hein. Je me nourrissais, par exemple, pendant cette période, 20 ans de ma vie où j'ai vécu mariée avec trois enfants, c'est très rapproché. J'avais la chance d'être dans des lieux, de voir l'immense, de voir, j'ai vu la montagne, j'ai vu le désert, j'ai vu la mer encore et encore. Et ça a été une très grande stimulation pour moi. C'était une sorte de force qui me donnait envie d'avancer dans mon chemin de sculpture. Et puis je faisais des portraits aussi, j'ai fait beaucoup de portraits. Portraits de mes enfants, des copains de mes enfants, et là aussi j'ai beaucoup appris.
J'ai l'impression d'un double mouvement et de m'aiguillon pendant ces années. Vous dites que vous êtes mariée très jeune, je crois que vous aviez 22 ans. Et quelque chose qui vous retient de pouvoir sculpter comme vous le souhaitez, d'une certaine façon. Et dans le même mouvement, les voyages que vous permettent la profession de votre mari, qui vous forment le regard, encore et encore.
Oui, absolument. Je manquais de temps, mais quand enfin je m'échappais à des urgences quotidiennes, des enfants, l'école, ce que toutes les mères de famille connaissent, hein, c'est banal ce que je raconte. Quand on a trois enfants et qu'on veut s'en occuper vraiment attentivement, les journées passent très vite.
Ça veut dire qu'on n'a plus que le matin et le soir, avant leur lever et après leur coucher.
Oui, mais moi, avant leur lever, j'avais pas l'énergie, non, parce que...
Oui, parce qu'il y a il y a toute la vie de famille, et la fatigue qui va avec. Est-ce qu'il y a une frustration pendant ces années-là?
Oui, ça c'est sûr.
Et un manque et une oppression?
Oui, alors ce que je me disais, c'est que ce que je fais maintenant, pendant que j'élève mes enfants, c'est capital, il faut que je le fasse le mieux possible. Donc c'est ce qui me donnait le courage d'accepter ma frustration. Mais c'est vrai que... En même temps, j'apprenais énormément de la vie à travers mes enfants. Mais en même temps, je me disais, ah, si je pouvais, je ferais ceci, cela. C'était très normal, je crois, de vivre ça comme ça.
C'est quoi l'exutoire pendant ces années par rapport à la sculpture? Parce que je pense que l'apport de vos enfants a été très formateur aussi pour vous en tant que femme et en tant que mère. Mais c'est quoi l'exutoire pendant ces 20 années par rapport à la sculpture? Comment vous vous en sortez par rapport à cette frustration?
J'ai une petite pièce pour moi au rez-de-chaussée de l'immeuble dans laquelle je bricole entre la machine, la laver et l'heure de l'école. Bien sûr, c'est bref, mais là, je, je me défoule complètement, parce que je suis dans un petit espace qui m'est propre. Et puis aussi, très tôt, j'ai emmené mes enfants dans les musées. J'ai emmené mes enfants voir des expos. Et c'était... Je crois que ça leur a plu aussi, mais moi, ça me faisait beaucoup de bien de m'offrir ça en même temps que...
De rester en contact.
De rester en contact.
Qu'est-ce qui vous marque dans ces années-là? Est-ce que c'est toujours les mêmes fondamentaux, la sculpture égyptienne, ou est-ce qu'il y a d'autres découvertes dans ces années-là?
D'autres découvertes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai découvert le mouvement dans en regardant vivre mes enfants, déjà. Et aussi le mouvement dans la nature, le mouvement extraordinaire dans la forêt, le mouvement des vagues de la mer. Ça, j'insiste beaucoup sur le fait que la mer m'a énormément marquée. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sculptures en forme de vagues. Et j'ai beaucoup de sculptures qui s'appellent vagues de ceci, vagues de cela. Enfin, et la forme tendue et arrondie avec une arête cette forme m'habite jusqu'à maintenant, après de longues années. Et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est le désert aussi. Le désert par ses constructions si extraordinaires qu'on voit dans le Hogar, par exemple. Et ces silences habités et ces dunes, la forme d'une dune, c'est une sculpture parfaite. Il n'y a rien à dire de plus beau.
Et comme la vague, c'est une forme éphémère.
C'est une dune, c'est la simplicité, c'est la rigueur, c'est la douceur, c'est la force. C'est le mouvement. Enfin, il y a tout ça dans une dune. Et aussi, le désert, j'ai fait un voyage tout à fait extraordinaire, toute seule. Mon mari n'a pas voulu m'accompagner. Il ne voulait pas laisser les enfants. Et moi, je suis partie quand même avec une audace qui m'étonne énormément a posteriori. J'ai pu rencontrer des Touaregs. Et là... Dans des campements Touareg, j'ai vécu. À l'époque, il y avait encore beaucoup de nomades. J'ai vécu plusieurs jours avec des femmes targhis qui étaient sculpturales elles-mêmes. Enfin, elles étaient assises par terre, sur le sable, avec leurs voiles noires qui se détachaient sur la lumière du sable. Elle formait comme un triangle de beauté. Et elles étaient lumineuses dans leur pauvreté, dans leur silence. J'étais éblouie par ça. Ça a été un événement très important pour moi.
Que vous avez transcendé en sculpture.
Voilà.
Qui s'appelle ?
La paix.
La paix.
La paix, cette sculpture, ça a été la première sculpture abstraite que j'ai osé faire.
Est-ce que vous vous souvenez de la période? Est-ce que vous vous souvenez de l'année?
Oui, très bien, 77.
Donc je vous propose qu'on revienne, parce qu'il y a une année très importante dans votre vie, c'est 1976. Je vous propose qu'on y revienne dans la dernière partie de l'émission, après une deuxième pause musicale. Thank you. se retrouve sur Fréquence Protestante avec Edmé Guillon et ce deuxième choix musical, Vivaldi, un extrait du Nisi Dominus. Pourquoi ce choix ?
Ah, ça, Vivaldi, c'est une grande découverte que j'ai faite justement vers à l'époque du Paraclet, 17 ans par là. J'ai découvert Vivaldi, je crois, j'ai découvert en voyant le film de Cocteau, Les Enfants Terribles. Il y avait une musique de Vivaldi que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas Vivaldi, je ne connaissais rien en musique, en fait. Et ça a été un choc, là encore, tellement beau. Après, j'ai eu envie d'écouter encore et encore et encore Vivaldi. Voilà.
Méguillon, avant la pause musicale, vous nous parliez d'une sculpture qui avait été déterminante, qui s'appelle La Paix, qui fait suite à un voyage dans le désert. Vous avez rencontré des femmes qui vous ont paru extrêmement émouvantes et fortes. Et c'est une sculpture qui date de 1977. Mais il y a des événements déterminants qui se passent dans votre vie en 1976 et qui vont avoir un impact et dans votre vie, et dans votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces événements ?
Oui, en 1976, il y a eu en effet un événement capital qui m'a transformée, je crois. J'ai été foudroyée par une hémorragie méningée. J'étais pas trop vieille, et je m'y attendais pas du tout, j'avais jamais été malade de ma vie. Et je me suis retrouvée entre la vie et la mort, à la Salpêtrière. Et là, dans l'immense souffrance et l'ombre terrible de ce passage, il y a eu des lumières, des jalons de lumière, là encore, totalement inattendus, qui m'ont convaincue. J'y ai repensé beaucoup après, que la vie, c'est la relation, avec un grand R, comme dit, c'est Jean-François Six qui dit ça. Il a dit ça à des journalistes un jour, qu'est-ce que c'est la vie ? Lui demandait-on, il a répondu, la vie, c'est la relation. Je trouvais ça tellement vrai, tellement fort. Et alors, pourquoi à la Salpêtrière ? Parce que là, le sourire du neurochirurgien qui passe dans le couloir et qui me fait un sourire, quand je souffrais tellement, rien que de voir ce sourire, ça change tout. Après, le brave aumônier, très, très bienveillant, qui venait me voir tous les jours pour me préparer à mourir, parce que j'étais vraiment dans une situation limite. Et moi, et je lui ai dit, non, ne parlez pas, je ne peux pas, j'ai trop mal à la tête. Lisez-moi les béatitudes. Et cet homme, tous les jours, est revenu pendant un mois me lire les béatitudes. Il disait rien de trop, rien de plus. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Son humilité et cette beauté. Et puis il y avait aussi une femme de ménage qui chantait. Elle était antillaise et elle chantonnait en faisant le ménage dans la chambre d'hôpital. Et ces signes de la présence humaine qui vous portent d'une telle manière puissante, sans s'en rendre compte même, j'ai compris que peut-être que moi, à mon petit niveau, avec ma sculpture, en sortant de l'hôpital, si j'en sortais, si je revivais, j'allais parler de la vie. Et je rassurais même l'aumônier en lui disant « je ne vais pas mourir, je vais devenir sculpteur ». J'avais envie de parler de la vie. Voilà. Et j'étais émerveillée dès ma convalescence, émerveillée par tout ce que je voyais. Enfin, le bruit du vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, pouvoir relire, parce que je pouvais pas je pouvais plus lire, je pouvais plus écrire, etc. Bon, tout ça, j'ai vu à quel point la sculpture et la vie se mélangeaient pour moi. La sculpture, c'est la vie, en fait.
Est-ce que le fait que vous soyez sorti de cet accident méningé d'une très grande gravité, enfin, qui vous a laissé visiblement entre la vie et la mort, pour vous, c'est la fin d'une parenthèse et la reprise de votre chemin par rapport à la sculpture?
Oui, absolument. Je me suis dit, si je ne sculpte pas, je meurs. Je suis dans mon chemin en sculptant, je ne fais de mal à personne. C'est un plus pour ceux que j'aime. Et mes enfants m'ont beaucoup soutenue. Donc, allons-y. Et par bonheur, j'ai trouvé un atelier justement en 76. Un atelier miraculeusement beau. Alors que je cherchais un garage à transformer ou n'importe quoi, j'ai trouvé un atelier dans le 5e, dans un coin béni. Calme. Et là, j'ai travaillé. C'est là que j'ai fait ma première sculpture abstraite. La paix. Parce que cette femme Touareg, j'ai fait une première, une deuxième, une troisième en revenant du désert. Mais elles étaient appesanties par l'anecdote. Et je voulais qu'elles soient légères et libres et lumineuses comme je les avais vues. Alors je simplifiais, simplifiais, simplifiais. Et plus je simplifiais, plus je devenais vraie. Et ça a été un enseignement capital.
Une aiguillon. Qu'est-ce qui vous nourrit encore aujourd'hui ?
Ah, la vie, la relation, la rencontre. Chaque exposition est à ce niveau-là un bonheur parce que j'expose soit dans un lieu, je n'ai pas de galerie, hein, j'expose dans un lieu public souvent où on veut bien m'accueillir ou aussi dans mon atelier. Et là, les gens s'expriment, ils me parlent, ils me disent pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je fais, etc. Donc, c'est superbe d'entrer en vraie relation avec l'autre. On n'existe pas tout seul, on existe dans l'échange. Je suis convaincue de ça. On existe dans la vérité aussi. Quand on parle vrai, ça se sent. Quand on est simple et vrai, je pense que c'est accessible à tous. Même des gens qui ne connaissent rien à l'art, qui viennent en passant comme ça, comme c'est arrivé à la mairie du 5e plusieurs fois, ou dans un autre endroit. Ah, quelqu'un m'a dit, ah, vous savez, moi j'y connais rien, mais j'aime ce que vous faites. Pouch, ça me va droit au cœur. C'est très important ça, d'avoir un moyen de communiquer. Un moyen de communiquer qui fait écho dans la profondeur de l'autre, enfin, qui va d'une âme à une autre âme, quoi. Enfin, c'est un peu grandiloquent ce que je dis.
Merci beaucoup, Edmé Guyon, pour cette émission et ce moment offert et partagé. Merci à Yves pour la technique. Vous pouvez retrouver l'émission sur www.fréquenceprotestante.com. Où vous pourrez l'écouter à votre convenance pendant 6 mois. Je vous encourage vivement à découvrir, en attendant la prochaine exposition, le site internet d'Edmé Guyon, www.edmeguyon.fr. Edmé Guyon, EDMEEGUYON. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Enfance de l'Art.